Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast. Bienvenue à toutes et à tous. Avec ma femme d'aujourd'hui, nous allons découvrir les deux mondes. Un, celui des multinationales. Deux, celui des startups. Et elle a vécu dans les deux. On y va pour les détails.
Médien. Yasmine, femme d'aujourd'hui.
Noham Azouzi, bonjour.
Bonjour Yasmine, comment ça va?
Très bien, merci beaucoup d'être ma femme d'aujourd'hui. Comment ça va Lala Noha?
Écoute, avec plaisir, ça va très bien, merci. Je suis au Maroc, là, pour les vacances. Bon, il pleut aujourd'hui, mais c'est pas grave.
Ok, alors quand tu dis je suis au Maroc, parce que d'habitude tu es où?
Alors moi, je suis basée à Paris. Ouais. Ça fait 8 ans que je vis en France. Je travaille dans une start-up en finance pour aider la diaspora marocaine à transférer de l'argent vers le Maroc.
Ok. Alors, avant d'arriver dans cette start-up, en fait, tu étais au sein d'un très grand groupe.
Ouais, effectivement.
D'une multinationale.
Exactement. Moi, je suis arrivée en France en 2015. J'ai fait mes études au Maroc et donc je suis arrivée en 2015 en France. C'est une suite logique, on va dire, pour poursuivre donc une dernière année d'études et entrer dans la jungle professionnelle. Et je pense que la France, pour beaucoup de Marocains, est un choix qui est logique et inné. Et donc effectivement, je suis rentrée dans ce grand groupe de cosmétiques pour effectivement apprendre les ficelles du métier du marketing. Et j'y suis restée plusieurs années, jusqu'au Covid, où effectivement j'ai décidé de faire d'autres choix qui me semblaient un peu plus impactants et logiques pour la suite de ma carrière.
Ok, alors justement, on va essayer de comprendre ce switch, parce que ça aussi c'est important, parce que en fait quand on démarre sa carrière dans une grande boîte, dans une vraie structure en fait, avec les process, avec des coulisses bien, bien ficelées, aller dans une start-up, c'est aller dans le monde parallèle de ces grandes entreprises. Qu'est-ce qui s'est passé pendant le Covid en fait, qui a fait que tu t'es dit je veux plus de ce monde-là, je veux autre chose?
Alors ouais, c'est très correct ce que tu dis. En fait, moi, j'ai passé 5-6 ans dans cette grande structure. Et je pense que pour toutes les jeunes filles, c'est un peu un rêve de travailler dans le monde du maquillage, de voir des mannequins, de participer à des super campagnes qui passent à la télé, etc. Mais je pense que le Covid m'a vraiment impactée. Parce qu'effectivement, pendant le Covid, on était en confinement en France. Et finalement, pour cette grande structure, le but était de continuer à vendre ce maquillage, ces rouges à lèvres, alors qu'on commençait à porter des masques, qu'on ne sortait pas de chez soi, etc. Et puis, j'ai eu un peu ce déclic de me dire, en fait, moi, Noura, aujourd'hui, j'ai 27 ans. Est-ce que c'est ça que j'ai envie de continuer à faire dans la vie? Ou est-ce que j'ai envie d'aller chercher une structure qui me correspond un peu plus, où je peux avoir un vrai impact en tant que citoyenne, en tant que marocaine, etc. Et c'est vraiment le déclic que j'ai eu de me dire le travail, c'est bien. Accomplir des tâches, faire des choses qu'on aime, trouver une passion, c'est génial. Mais je pense qu'avoir un impact pour les autres, c'est encore plus important. Et c'est pour ça qu'en fait, la problématique la plus importante qu'il y a eu pendant le confinement, pour beaucoup, ça a été comment on pouvait faire les courses, comment on pouvait aller au supermarché sans prendre de risques et en fait finalement faire ses courses, acheter à manger, etc. Et c'est là où je suis tombée amoureuse des startups et que j'ai rejoint ma première startup qui effectivement proposait la livraison de courses à domicile en 15 minutes.
Ok. Alors, quand tu dis « je suis tombée amoureuse des startups », donc c'est pendant... C'est fou, mais je veux dire, on a l'impression que Covid, c'est tellement loin. C'était en 2020. On est là en 2025. mais je continue à rencontrer des femmes dont les vies ont été transformées par cette pandémie, en fait, la façon de penser. Tu penses que s'il n'y avait pas eu ce grand choc mondial, choc psychologique mondial, tu penses que tu serais toujours dans le même parcours de vie? Tu aurais cherché un sens?
Je pense pas. Franchement, je pense pas. Et ta question, elle est très pertinente. Je pense qu'aujourd'hui, on est tous dans un rythme très effréné de mondialisation, de vouloir faire plus d'argent, de vouloir trouver le job idéal, etc. Que finalement, je pense qu'on ne prend jamais le temps de se poser et de réfléchir à vraiment qu'est-ce qu'on a envie de faire. Mmh. On suit beaucoup de modèles, on suit ce que nous disent les parents, ce que on est influencé par les amis, par des choses comme ça. Et finalement, on ne prend jamais le temps de faire, on va dire, une introspection de soi-même. Mmh. Et je pense que le Covid, malgré bien sûr que ça a été une pandémie mondiale et qu'il y a eu vraiment beaucoup, beaucoup de choses négatives autour de ce Covid, si je peux dire qu'il y a eu une chose positive, c'est que ça a permis à chacun d'entre nous de faire un prise de recul, un step back, et de se poser des questions. Et je pense que, en tout cas, pour ma part, dans mon cercle amical, familial, la majorité des personnes ont pris un tournant dans cette période, que ce soit personnel ou professionnel. Moi j'ai remarqué ça.
Mais en même temps, Noura, j'ai envie de dire, on doit avoir le luxe de se poser la question. Parce que tu as parfaitement raison, la plupart d'entre nous, on est dans des modèles en fait. Dans des modèles, voilà, soit suivre les conseils des parents, soit suivre une trajectoire de carrière, soit. Mais parfois, c'est aussi, en fait, on suit parce qu'on cherche à aussi améliorer une position, et notamment une position financière, pour pouvoir faire face à toutes les exigences de la vie, notamment de la vie familiale, des enfants, des études, etc. Donc, c'est un luxe aussi de pouvoir s'asseoir et se dire, est-ce que je peux changer la donne, en fait? Est-ce que je peux sortir d'une structure qui est bien ficelée, où j'ai une trajectoire de carrière, un salaire fixe qui arrive à la fin du mois, etc. Est-ce que, je vais aller dans une start-up, je reprends tout à zéro, je vais avoir du sens de l'impact, etc. Mais est-ce que j'aurai l'assurance d'un avenir?
Exactement.
C'est un dilemme, pour beaucoup de personnes, c'est un dilemme.
Bien sûr, mais comme tu le dis, y a une pression financière aujourd'hui qui est constante. Les niveaux de vie ont augmenté. Effectivement, aujourd'hui, le choix, on va dire, qu'on va aller chercher, c'est finalement une aisance financière et une sécurité.
Sécurité, surtout.
Moi, c'est ce que j'appelle la zone de confort. Et cette zone de confort, pour beaucoup, elle est difficile à casser. Et beaucoup de gens ne veulent pas en sortir. Une fois qu'ils se créent une zone de confort, c'est-à-dire, voilà, études, on est parti à l'étranger, on a construit quelque chose, on va rester dans cette continuité. On n'a pas envie d'en sortir.
Toi, tu l'appelles zone de confort, moi, je l'appelle prison dorée, en fait.
Ah oui, ben, tout à fait. Ouais. Exactement.
Moi, je l'appelle prison dorée.
Je veux dire que c'est... Ouais. Ah oui. Et ça a été mon exemple, d'ailleurs, on en parlait tout à l'heure, être dans une grande structure où finalement, on a un salaire qui tombe chaque mois, on a des superbes avantages, on a des chèques d'été pour voyager, des choses comme ça. Personne ne voudrait en sortir.
Absolument.
Quand j'ai dit à mes parents que j'en sortais, ils m'ont dit, Noura, tu es folle.
Tu t'es déjà mariée à l'époque?
Non, même
non,
pas.
Même pas, ok. Donc il n'y avait pas encore bébé,
pas mariée. Voilà. Okay. Ouais. Et on m'a pris pour une folle. Pourquoi tu rejoins une start-up turque qu'on ne connaît même pas, qui arrive en France, alors que tu es dans une superbe entreprise française? Et effectivement, voilà, j'ai dû justifier mes choix, j'ai été incomprise, mais j'ai continué dans cette lignée.
Tu croyais à combien en pourcentage?
Alors, honnêtement, je pense que j'y croyais franchement à 100%, pour être honnête.
Ouais.
Je pense que j'ai eu la maturité nécessaire de me dire « Ok, Noura, aujourd'hui j'ai 27 ans, ça fait 5 ans que je travaille dans un grand groupe et en fait c'est l'année où je peux prendre un risque. Parce que si je continue comme ça, je suis partie pour 20 ans, 30 ans de carrière dans la même boîte.
Ouais. »
Donc en fait, c'est cette année où je prends un risque.
Pourquoi c'était cette année ou pas?
Parce que, bah, comme tu le disais aussi, je n'étais pas mariée. Mmh. J'étais assez indépendante et libre de faire un choix et de l'assumer sans trop de conséquences. Mmh. J'avais quand même réussi à épargner un peu d'argent. Donc, je savais que je n'étais pas forcément dans une situation avec un risque à 100%. Et je me suis dit, écoute, il faut prendre un risque. On essaye, qui ne tente rien à rien. Et puis, au pire, je peux revenir dans le moule.
Mmh, ouais.
Et je trouve que, voilà, que cette prise de risque autour de 25 ans, 26 ans, 27 ans, elle est très pertinente. Mmh. Si quelqu'un a envie d'essayer quelque chose dans la vie.
Ça, c'était en 2020.
Après, c'est plus difficile. Exactement.
C'est plus difficile, mais ce n'est pas impossible. Mais ce n'est pas impossible,
bien sûr.
C'est plus difficile. Mais tu as raison, c'est plus compliqué, bien sûr, parce qu'on est déjà engagé dans... Voilà, dans les obligations de la vie.
Exactement.
Alors, ça, c'était en 2020. On est en 2025. Mmh. Comment ça se passe? Est-ce que tu es toujours dans la même start-up?
Alors, non. J'ai passé 2 ans dans cette start-up donc de livraison de courses. Cette start-up, malheureusement, donc c'est, on va dire, Elle a quitté la France.
Okay.
C'est dû à, on va dire, une activité économique qui finalement n'a pas fonctionné sur le territoire français. Et puis, ce n'est pas grave.
9 sur 10 qui ne passent pas la première année.
Ouais. C'est très compliqué de lancer une start-up ou de travailler dans une start-up. Mais les gens le font. C'est parce qu'on sait que derrière, l'impact pour les consommateurs... il est très important. Mm. Ce qu'une start-up va apporter à des millions de personnes, ça va être vraiment la solution qu'ils espèrent.
Un problème fixe.
C'est beaucoup plus agile.
Exact.
Exactement. Et surtout, une petite structure est beaucoup plus agile,
tout à fait.
Flexible à répondre à des besoins qu'une très grande structure qui a besoin d'années.
De process, de validation, etc.
Voilà.
Mais alors justement, toi, tu as vécu dans les deux, en fait. Tu es passé par la grosse structure, la multinationale, avec tout ce que cela implique.
Ouais.
Et les gens qui ont travaillé dans des multinationales savent comment les process sont verrouillés. Autant, justement, ça peut être agréable, autant la machine peut être très lente à tourner. Et puis, tu passes dans une start-up, c'est l'opposé, en fait. C'est l'agilité à tout moment de la journée. Qu'est-ce que tu as abandonné dans l'un et qu'est-ce que tu as gagné dans l'autre?
Effectivement, hein, tu le résumes très bien. Je pense que ce qu'on gagne quand on est dans un grand groupe, c'est effectivement une rigueur et on va dire une source d'information qui est incroyable. Mmh. On apprend de personnes qui sont très inspirantes, qui ont des années de carrière. Et puis, il y a une certaine facilité à rentrer dans le moule et à y rester. Et bien sûr, il y a des choses qui sont plus faciles à faire, il y a du budget, il y a des choses comme ça. Mais par contre, ce qu'on abandonne, je trouve, c'est ce côté où on a envie d'avoir un impact et on a envie de montrer sa créativité. Il y a tellement de process que finalement, on va un peu plus exécuter que pouvoir démontrer ce qu'on sait faire et son côté un peu créatif. Mmh. Par ailleurs, la start-up, on te lance dans la mer, dans l'océan, et on te dit, vas-y, apprends à nager, trouve-nous des solutions, invente des process, parce que finalement, il y a moins d'outils, les process ne sont pas encore créés. Par contre, c'est une source incroyable, c'est une occasion incroyable de pouvoir démontrer ce qu'on sait faire, démontrer sa créativité, et puis, on va dire, la satisfaction personnelle d'avoir résolu des problèmes chaque jour, ça n'a pas de prix.
Alors, après cette expérience, tu atterris où? Et ça te prend combien de temps pour atterrir ailleurs? C'est-à-dire, est-ce que tu passes par une période de chômage?
Alors, non. J'ai eu la chance. En fait, moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'on intègre cet environnement start-up, on est constamment sollicité par d'autres startups. Donc en fait, les 2 ans où j'ai travaillé dans la startup turque, j'ai été sollicitée constamment pour l'expertise et le métier que je faisais, qui est le growth hacking, c'est-à-dire comment on arrive à vite créer de la croissance pour une petite boîte. Et donc j'ai été constamment sollicitée pour travailler dans d'autres startups. Et finalement, quand j'ai vu que la start-up dans laquelle je travaillais était en train de quitter le marché, j'ai choisi de rejoindre la start-up actuelle dans laquelle je travaille, qui me correspond, je trouve, encore plus, car comme je te le disais, elle aide la diaspora marocaine à transférer de l'argent vers le Maroc.
Ok. Alors, entre-temps, il y a eu, la situation personnelle qui change. Tu t'es mariée, tu es devenue maman. Est-ce que,
exactement,
justement, ce changement de carrière, ce changement de, finalement, de structure, une autre façon de travailler, s'adapte davantage aussi ta situation de jeune maman qui est loin de sa famille, loin de ses parents, voilà, et on sait ce que ça demande aussi, l'arrivée d'un bébé, d'être aussi loin, ou finalement c'est compliqué d'avoir de l'aide.
Ouais, alors tout à fait. Alors tu soulignes un truc qui est très intéressant dont je vais parler, dont je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans la situation aujourd'hui ou qui veulent trouver cette situation, c'est qu'en fait la différence dans les deux startups où j'ai travaillé, c'est qu'aujourd'hui je suis en télétravail.
Ok.
Donc c'est un rêve.
C'est un luxe.
Pour beaucoup, c'est un luxe. Voilà, exactement.
Ouais.
C'est quelque chose qui a été accessible pour beaucoup de personnes pendant le confinement. Il y en a qui ont pu le garder des mois après. Il y a eu beaucoup de retours vers le présentiel pour beaucoup d'entreprises. Mais moi, en rejoignant cette start-up, j'ai pu garder ce côté télétravail à 100%. Mm. Où effectivement je trouve un équilibre parfait entre le personnel et le professionnel.
Ouais, ouais.
C'est-à-dire que je travaille totalement à mon rythme, j'épargne le temps de transport, etc. Et finalement j'arrive à balancer entre,
oui, à équilibrer
entre la casquette maman, la casquette femme, la casquette woman in tech, etc., etc.
Et le retour au Maroc, est-ce que c'est quelque chose que à laquelle tu penses?
Écoute, c'est une très très bonne question. Je pense que pour moi et pour beaucoup de personnes qui sont issues de ma génération, qui aujourd'hui, ont vécu des deux côtés de la Méditerranée, ce choix est un vrai dilemme. C'est beaucoup de questionnements. On a grandi au Maroc, donc tous les souvenirs d'enfance, la famille, comme tu le disais, est au Maroc, mais on a quand même construit une dizaine d'années en France, ou à l'étranger. C'est-à-dire qu'on a construit sa carrière professionnelle. Pour la plupart, on est devenu citoyen de ce pays où on s'est fortement intégré. Et donc finalement, le quitter comme ça, c'est pas facile. Donc pour ma part, c'est effectivement un questionnement que je me pose tous les jours, et notamment plus aujourd'hui où j'ai une vie de famille. Et comme tu le disais, j'aimerais avoir de l'aide de ma famille qui est plus proche, parce que une famille nucléaire, c'est bien, mais effectivement les deux parents pour surveiller un petit, ça peut être compliqué dans un pays où on n'a pas forcément de l'aide de manière ponctuelle un samedi après-midi ou pendant les vacances. Donc effectivement, c'est un questionnement qui me taraude tous les jours. Et je pense que pour l'instant, je n'ai pas la réponse, mais je suis de plus en plus tournée vers ce qui se passe au Maroc. Je suis beaucoup plus dans l'observation, de me dire, OK, quelles sont les perspectives d'avenir ou les potentiels choix professionnels qui se profilent à moi si je rentre au Maroc. Et surtout,
ça t'encourage par rapport à ça, justement, ça t'encourage ce que tu observes jusque-là?
Alors, pour être honnête, oui, bien sûr. Moi, je vois que déjà, je rentre chaque vacances et je suis amenée à rentrer très souvent avec mon travail au Maroc, et je remarque que ça bouge. Il y a eu effectivement il y a tout le temps des forums maintenant qui sont organisés au Maroc. Il y a l'État qui a pris au sérieux cette ère de digitalisation. Tout est en train de se digitaliser, de se transformer, même au niveau du portail des gouvernements, etc. Donc au final, il y a une énorme lancée vers la start-upisation, la digitalisation du Maroc. En plus, tout le monde a en tête cette Coupe du Monde 2030.
Si tu devais faire évoluer une chose pour toi, ça serait quoi dans ce contexte-là? Si tu devais voir quelque chose, un point en particulier évoluer positivement, ça serait lequel?
Alors, je pense que effectivement, ce serait le côté, je pense, éducation. Parce que finalement, les efforts de chacun pour faire améliorer le Maroc, je pense qu'il vient d'une source qui est très importante, c'est l'éducation. Et tant qu'on va voir des chiffres d'éducation qui n'augmentent pas, je pense que c'est quelque chose qui pourrait me faire dire « Ok, on avance bien ou on n'avance pas. » Parce que tous les autres efforts qui sont...
Parce qu'ensuite, les compétences ne seront pas là, en fait. Il va falloir les importer pour qu'elles puissent... C'est ça.
Exactement. Mmh. Exactement. Moi, je regarde à long terme. Je me dis quelle est la nouvelle génération
qui va porter cette digitalisation.
Qui va porter le Maroc, exactement. Mais je trouve que ça avance quand même. C'est quelque chose que je regarde de manière très attentive. Et il y a des choses qui sont là. Moi, pour la petite anecdote, j'ai été, dans ma promotion au lycée, j'ai été, je pense, j'ai fait partie des rares personnes qui sont restées au Maroc.
Après le bac.
D'école. Ouais. Après le bac, exactement. Il n'y avait pas énormément de choix d'école. Il y avait le modèle anglo-saxon. Moi, j'ai fait Erawane. Après, il y avait 2-3 écoles post-bac. Et tu vois, pour moi, ce choix était clair parce que je voulais apprendre l'anglais, parce que j'aimais bien un peu le côté culture anglo-saxonne. Mais j'étais l'une des rares, on va dire, aliens à être restée au Maroc.
Ouais.
Tout le monde était parti. Et donc, effectivement, aujourd'hui, quand je regarde le catalogue d'écoles qui sont proposées, je trouve que ça évolue dans le bon sens.
Oui, absolument. Eh bien, Nohama Azouzi, merci infiniment d'avoir été ma femme d'aujourd'hui. C'était un plaisir d'échanger avec toi.
Avec plaisir. Vraiment, pareil, c'était génial.
Merci à toutes et à tous pour votre confiance. Femme d'aujourd'hui et sa version homme, c'est du lundi au vendredi sur les ondes de Médien et à tout moment, à la demande et en avant-première sur Médien Podcast et les plateformes de podcast habituelles.